La plupart de ceux qui vont au christianisme, ou qui, y étant nés et ne l'ayant jamais quitté, s'y attachent d'un mouvement vraiment sincère et fervent, sont poussés et ensuite maintenus par un besoin du cœur. Ils ne pourraient pas se passer de la religion. Du moins, ils ne pourraient pas s'en passer sans qu'il en résulte en eux une espèce de dégradation. Or, pour que le sentiment religieux procède de l'esprit de vérité, il faut être totalement prêt à abandonner sa religion. Dût-on perdre ainsi toute raison de vivre, au cas où elle serait autre chose que la vérité? Dans cette disposition d'esprit seulement, on peut discerner s'il y a en elle ou non de la vérité. Autrement, on n'ose pas même poser le problème dans sa rigueur. Dieu ne doit pas être pour un cœur humain une raison de vivre comme est le trésor pour l'avare. Harpagon et Grandet aimaient leur trésor. Ils se seraient fait tuer pour lui. Ils seraient morts de chagrin à cause de lui. Ils auraient accompli des merveilles de courage et d'énergie pour lui. On peut aimer Dieu ainsi, mais on ne le doit pas. Ou plutôt, c'est seulement à une certaine partie de l'âme que cette espèce d'amour est permis, parce qu'elle n'est susceptible d'aucun autre. Mais elle doit rester soumise et subordonnée à la partie de l'âme qui vaut davantage. On peut affirmer, sans crainte d'exagération, qu'aujourd'hui, l'esprit de vérité est presque absent de la vie religieuse. Cela se constate, entre autres, dans la nature des arguments apportés en faveur du christianisme. Plusieurs sont de l'espèce publicité pour pilule pink. C'est le cas pour Bergson et tout ce qui s'en inspire. Dans Bergson, la foi apparaît comme une pilule pink de l'espèce supérieure, qui communique un degré prodigieux de vitalité. Il en est de même pour l'argumentation historique. Elle consiste à dire « Voyez comme les hommes étaient médiocres avant le Christ. Le Christ est venu, et voyez comme les hommes, malgré les défaillances, ont été ensuite, dans l'ensemble, quelque chose de bien. » Cela est absolument contraire à la vérité. Mais même si c'était vrai, c'est ramener l'apologétique au niveau des réclames pour spécialité pharmaceutique, qui décrivent le malade avant et après. C'est mesurer l'efficacité de la passion du Christ qui, si elle n'est pas fictive, est nécessairement infinie, par un effet historique, temporel, humain, qui, fût-il même réel, ce qui n'est pas, serait nécessairement fini. Le pragmatisme a envahi et souillé la conception même de la foi. Si l'esprit de vérité est presque absent de la vie religieuse, il serait singulier qu'il fût présent dans la vie profane. Ce serait le renversement d'une hiérarchie éternelle. Mais il n'en est pas ainsi. Les savants exigent du public qu'il accorde à la science ce respect religieux qui est dû à la vérité. Et le public les croit. Mais on le trompe. La science n'est pas un fruit de l'esprit de vérité. Et cela est évident dès qu'on fait attention. Car l'effort de la recherche scientifique, telle qu'elle a été comprise depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, ne peut pas avoir pour mobile l'amour de la vérité. Il y a là un critère dont l'application est universelle et sûre. Il consiste, pour apprécier une chose quelconque, à tenter de discerner la proportion de bien contenue non dans la chose elle-même, mais dans les mobiles de l'effort qui l'a produite. car autant il y a de bien dans le mobile, autant il y en a dans la chose elle-même, et non davantage. La parole du Christ sur les arbres et les fruits le garantit. Dieu seul, il est vrai, discerne les mobiles dans le secret des cœurs. Mais la conception qui domine une activité, conception qui généralement n'est pas secrète, est compatible avec certains mobiles et non avec d'autres. Il en est qu'elle exclut par nécessité, par la nature des choses. Il s'agit donc d'une analyse qui mène à apprécier le produit d'une activité humaine particulière par l'examen des mobiles compatibles avec la conception qui y préside. De cette analyse découle une méthode pour améliorer les hommes, peuples et individus, et soi-même pour commencer, en modifiant les conceptions de manière à faire jouer les mobiles les plus purs. La certitude que toute conception incompatible avec des mobiles vraiment purs est elle-même entachée d'erreurs est le premier des articles de foi. La foi est avant tout la certitude que le bien est un. Croire qu'il y a plusieurs biens distincts et mutuellement indépendants, comme vérité, beauté, moralité, c'est cela qui constitue le péché de polythéisme, et non pas laisser l'imagination jouer avec Apollon et Diane. En appliquant cette méthode à l'analyse de la science des 3 ou 4 derniers siècles, on doit reconnaître que le beau nom de vérité est infiniment au-dessus d'elle. Les savants, dans l'effort qu'ils fournissent jour après jour, tout le long de leur vie, ne peuvent pas être poussés par le désir de posséder de la vérité. Car ce qu'ils acquièrent, ce sont simplement des connaissances, et les connaissances ne sont pas par elles-mêmes un objet de désir. Un enfant apprend une leçon de géographie pour avoir une bonne note, ou par obéissance aux ordres reçus, ou pour faire plaisir à ses parents, ou parce qu'ils sentent une poésie dans les pays lointains et dans leur nom. Si aucun de ces mobiles n'existe, il n'apprend pas sa leçon. Si à un certain moment, il ignore quelle est la capitale du Brésil, et si au moment suivant il l'apprend, il a une connaissance de plus. Mais il n'est aucunement plus proche de la vérité qu'auparavant. L'acquisition d'une connaissance fait dans certains cas approcher de la vérité, mais dans d'autres cas n'en approche pas. Comment discerner les cas? Si un homme surprend la femme qu'il aime et à qui il avait donné toute sa confiance en flagrant délit d'infidélité, il entre en contact brutal avec de la vérité. S'il apprend qu'une femme qu'il ne connaît pas, dont il entend pour la première fois le nom, dans une ville qu'il ne connaît pas davantage, a trompé son mari, cela ne change aucunement sa relation avec la vérité. Cet exemple fournit la clé. L'acquisition des connaissances fait approcher de la vérité quand il s'agit de la connaissance de ce qu'on aime, et en aucun autre cas. Amour de la vérité est une expression impropre. La vérité n'est pas un objet d'amour. Elle n'est pas un objet. Ce qu'on aime, c'est quelque chose qui existe, que l'on pense, et qui par là peut être occasion de vérité ou d'erreur. Une vérité est toujours la vérité de quelque chose. La vérité est l'éclat de la réalité. L'objet de l'amour n'est pas la vérité, mais la réalité. Désirer la vérité, c'est désirer un contact direct avec de la réalité. Désirer un contact avec une réalité, c'est l'aimer. On ne désire la vérité que pour aimer dans la vérité. On désire connaître la vérité de ceux qu'on aime. Au lieu de parler d'amour de la vérité, il vaut mieux parler d'un esprit de vérité dans l'amour. L'amour réel et pur désire toujours avant tout demeurer tout entier dans la vérité, quelle qu'elle puisse être, inconditionnellement. Toute autre espèce d'amour désire avant tout des satisfactions, et de ce fait est principe d'erreur et de mensonge. L'amour réel et pur est par lui-même esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Le mot grec qu'on traduit par « esprit » signifie littéralement « souffle igné », souffle mélangé à du feu. Et il désignait, dans l'Antiquité, la notion que la science désigne aujourd'hui par le mot « d'énergie ». Ce que nous traduisons par « esprit de vérité » signifie l'énergie de la vérité comme force agissante. L'amour pur est cette force agissante, l'amour qui ne veut à aucun prix, en aucun cas, ni du mensonge, ni de l'erreur. Pour que cet amour fût le mobile du savant dans son effort épuisant de recherche, il faudrait qu'il eût quelque chose à aimer. Il faudrait que la conception qu'il se fait de l'objet de son étude enfermât un bien. Or, le contraire a lieu. Depuis la Renaissance, plus exactement, depuis la deuxième moitié de la Renaissance, la conception même de la science est celle d'une étude dont l'objet est placé hors du bien et du mal, surtout hors du bien, considéré sans aucune relation ni au bien ni au mal, plus particulièrement sans aucune relation au bien. La science n'étudie que les faits comme tels, et les mathématiciens eux-mêmes regardent les relations mathématiques comme des faits de l'esprit. Les faits, la force, la matière, isolés, considérés en eux-mêmes, sans relation avec rien d'autre. Il n'y a là rien qu'une pensée humaine puisse aimer. Dès lors, l'acquisition de connaissances nouvelles n'est pas un stimulant suffisant à l'effort des savants. Il en faut d'autres. Ils ont d'abord le stimulant contenu dans la chasse, dans le sport, dans le jeu. On entend souvent des mathématiciens comparer leur spécialité au jeu d'échecs. Quelques-uns la comparent aux activités où il faut du flair, de l'intuition psychologique, parce qu'ils disent qu'il faut deviner d'avance quelles conceptions mathématiques seront, si on s'y attache, stériles ou fécondes. C'est encore du jeu, et presque du jeu de hasard. Très peu de savants pénètrent assez profondément dans la science pour avoir le cœur pris par de la beauté. Il y a un mathématicien qui compare volontiers la mathématique à une sculpture dans une pierre particulièrement dure. Des gens qui se donnent au public comme des prêtres de la vérité dégradent singulièrement le rôle qu'ils assument en se comparant à des joueurs d'échecs. La comparaison avec un sculpteur est plus honorable. Mais si on a la vocation d'être sculpteur, il vaut mieux être sculpteur que mathématicien. En l'examinant de près, cette comparaison, dans la conception actuelle de la science, n'a pas de sens. Elle est un pressentiment très confus d'une autre conception. La technique est pour une si grande part dans le prestige de la science qu'on inclinerait à supposer que la pensée des applications est un stimulant puissant pour les savants. En fait, ce qui est un stimulant, ce n'est pas la pensée des applications, c'est le prestige même que les applications donnent à la science. Comme les hommes politiques qui sont enivrés de faire de l'histoire, les savants sont enivrés de se sentir dans une grande chose. Grande au sens de la fausse grandeur, une grandeur indépendante de toute considération du bien. En même temps, certains d'entre eux, ceux dont les recherches sont surtout théoriques, tout en goûtant cette ivresse, sont fiers de se dire indifférents aux applications techniques. Ils jouissent ainsi de deux avantages en réalité incompatibles, mais compatibles dans l'illusion. Ce qui est toujours une situation extrêmement agréable. Ils sont au nombre de ceux qui font le destin des hommes, et dès lors, leur indifférence à ce destin réduit l'humanité aux proportions d'une race de fourmis. C'est une situation de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que, dans la conception actuelle de la science, si on retranche les applications techniques, il ne reste plus rien qui soit susceptible d'être regardé comme un bien. L'habileté à un jeu analogue aux échecs est une chose de valeur nulle. Sans la technique, personne aujourd'hui dans le public ne s'intéresserait à la science. Et si le public ne s'intéressait pas à la science, ceux qui suivent une carrière scientifique en auraient choisi une autre. Ils n'ont pas droit à l'attitude de détachement qu'ils assument. Mais quoiqu'elle ne soit pas légitime, elle est un stimulant. Pour d'autres, la pensée des applications, au contraire, sert de stimulant. Mais ils ne sont sensibles qu'à l'importance, non au bien et au mal. Un savant qui se sent sur le point de faire une découverte susceptible de bouleverser la vie humaine tend toutes ses forces pour y parvenir. Il n'arrive guère ou jamais, semble-t-il, qu'il s'arrête pour supputer les effets probables du bouleversement en bien et en mal, et renonce à ses recherches si le mal paraît plus probable. Un tel héroïsme semble même impossible. Il devrait pourtant aller de soi. Mais là, comme ailleurs, la fausse grandeur domine, celle qui se définit par la quantité et non par le bien. Enfin, les savants sont perpétuellement piqués par des mobiles sociaux qui sont presque inavouables tant ils sont mesquins et ne jouent pas un grand rôle apparent, mais qui sont extrêmement forts. Qui a vu les Français, en juin 1940, abandonner si facilement la patrie et quelques mois plus tard, avant d'être réellement mordus par la faim, faire des prodiges d'endurance, braver la fatigue et le froid pendant des heures pour se procurer un œuf? Celui-là ne peut pas ignorer l'incroyable énergie des mobiles mesquins. Le premier mobile social des savants, c'est purement et simplement le devoir professionnel. Les savants sont des gens qu'on paye pour fabriquer de la science. On attend d'eux qu'ils en fabriquent. Ils se sentent obligés d'en fabriquer. Mais c'est insuffisant comme excitant. L'avancement, les chairs, les récompenses de toute espèce, honneurs et argent, les réceptions à l'étranger, l'estime ou l'admiration des collègues, la réputation, la célébrité, les titres, tout cela compte pour beaucoup. Les mœurs des savants en sont la meilleure preuve. Au XVIe et XVIIe siècle, les savants se lançaient des défis. Quand ils publiaient leurs découvertes, ils omettaient exprès des chaînons dans l'enchaînement des preuves, ou bien ils en bouleversaient l'ordre pour empêcher leurs collègues de comprendre tout à fait. Ils se garantissaient ainsi du danger qu'un rival pût prétendre avoir fait la même découverte avant eux. Descartes lui-même avoue avoir fait cela dans sa géométrie. Cela prouve qu'il n'était pas un philosophe, au sens qu'avait le mot pour Pythagore et Platon, un amant de la sagesse divine. Depuis la disparition de la Grèce, il n'y a pas eu de philosophe. Aujourd'hui, dès qu'un savant a trouvé quelque chose, avant même d'en avoir mûri et éprouvé la valeur, il se précipite pour envoyer ce qu'on appelle une note au compte-rendu, afin de s'assurer la priorité. Un cas comme celui de Gauss est peut-être unique dans notre science. Il oubliait dans des fonds de tiroirs des manuscrits enfermant les découvertes les plus merveilleuses. Puis, quand quelqu'un mettait au jour quelque chose de sensationnel, il faisait remarquer négligemment. Tout cela est exact, je l'avais trouvé il y a 15 ans. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans ce sens et poser encore tel, tel et tel théorème. Mais aussi, c'était un génie de tout premier ordre. Peut-être y en a-t-il eu quelques-uns comme cela, une minuscule poignée, au cours des 3 ou 4 derniers siècles. Ce qu'a signifié la science pour eux est resté leur secret. Les stimulants inférieurs tiennent une très grande place dans l'effort quotidien de tous les autres. Aujourd'hui, la facilité des communications à travers le monde en temps de paix et une spécialisation poussée à l'extrême ont pour effet que les savants de chaque spécialité, qui constituent les uns pour les autres l'unique public, forment l'équivalent d'un village. Les cancans y circulent continuellement. Chacun connaît chaque autre, a pour chaque autre de la sympathie ou de l'antipathie. Les générations et les nationalités s'y heurtent. La vie privée, la politique, les rivalités de carrière y tiennent une grande place. Dès lors, l'opinion collective de ce village est viciée par nécessité. Or, elle constitue l'unique contrôle du savant, car ni les profanes, ni les savants des autres spécialités ne prennent aucune connaissance de ses travaux. La force des stimulants sociaux soumet la pensée du savant à cette opinion collective. Il cherche à lui plaire. Ce qu'elle consent à admettre est admis dans la science. Ce qu'elle n'admet pas en est exclu. Il n'existe aucun juge désintéressé, puisque chaque spécialiste, du fait même qu'il est spécialiste, est un juge intéressé. On dira que la fécondité d'une théorie est un critère objectif, mais ce critère joue seulement parmi celles qui sont admises. Une théorie refusée par l'opinion collective du village des savants est forcément stérile, parce qu'on ne cherche pas à en tirer des développements. C'est surtout le cas pour la physique, où les moyens même de recherche et de contrôle sont un monopole aux mains d'un milieu très fermé. Si les gens ne s'étaient pas engoués pour la théorie des quantas, quand Planck la lança pour la première fois, et cela, quoiqu'elle fût absurde, ou peut-être parce qu'elle l'était, car on était fatigué de la raison, on n'aurait jamais su qu'elle était féconde. Au moment où on s'est engoué d'elle, on ne possédait aucune donnée permettant de prévoir qu'elle le serait. Ainsi, il y a un processus darwinien dans la science. Les théories poussent comme au hasard et il y a survivance des plus aptes. Une telle science peut être une forme de l'élan vital, mais non pas une forme de la recherche de la vérité. Le grand public même ne peut pas ignorer et n'ignore pas que la science, comme tout produit d'une opinion collective, est soumise à la mode. Les savants lui parlent assez souvent de théories démodées. Ce serait un scandale si nous n'étions pas trop abrutis pour être sensibles à aucun scandale. Comment peut-on porter un respect religieux à une chose soumise à la mode? Les nègres fétichistes nous sont bien supérieurs. Ils sont infiniment moins idolâtres que nous. Ils portent un respect religieux à un morceau de bois sculpté qui est beau et auquel la beauté confère un caractère d'éternité. Nous souffrons réellement de la maladie d'idolâtrie. Elle est si profonde qu'elle ôte aux chrétiens la faculté du témoignage pour la vérité. Aucun dialogue de sourds ne peut approcher en force comique le débat de l'esprit moderne et de l'Église. Les incroyants choisissent, pour en faire des arguments contre la foi chrétienne, au nom de l'esprit scientifique, des vérités qui constituent indirectement, ou même directement, des preuves manifestes de la foi. Les chrétiens ne s'en aperçoivent jamais, et ils s'efforcent faiblement, avec une mauvaise conscience, avec un manque affligeant de probité intellectuelle, de nier ces vérités. Leur aveuglement est le châtiment du crime d'idolâtrie. Non moins comique est l'embarras des adorateurs de l'idole quand ils souhaitent exprimer leur enthousiasme. Ils cherchent quoi louer et ne trouvent pas. Il est facile de louer les applications. Seulement les applications, c'est la technique, ce n'est pas la science. Que louer dans la science elle-même? Et plus précisément, étant donné que la science réside dans des hommes, que louer dans les savants? Ce n'est pas facile à discerner. Quand on veut proposer un savant à l'admiration du public, on choisit toujours Pasteur, du moins en France. Il sert de couverture à l'idolâtrie de la science, comme Jeanne d'Arc à l'idolâtrie nationaliste. On le choisit parce qu'il a fait beaucoup pour soulager les maux physiques des hommes. Mais si l'intention d'y réussir n'a pas été le mobile dominant de ses efforts, il faut regarder le fait qu'il y a réussi comme une simple coïncidence. Si ce fut là le mobile dominant, l'admiration qu'on lui doit n'a pas de relation avec la grandeur de la science. Il s'agit d'une vertu pratique. Pasteur serait arrangé en ce cas dans la même catégorie qu'une infirmière dévouée jusqu'à l'héroïsme et ne différerait d'elle que par l'étendue des résultats. L'esprit de vérité, étant absent des mobiles de la science, ne peut pas être présent dans la science. Si on comptait le trouver en revanche à un degré élevé dans la philosophie et les lettres, on serait déçu. Y a-t-il beaucoup de livres ou d'articles qui donnent l'impression que l'auteur, d'abord avant de commencer à écrire, puis avant de livrer la copie à l'impression, s'est demandé avec une réelle anxiété « Est-ce que je suis dans la vérité ?» Y a-t-il beaucoup de lecteurs qui, avant d'ouvrir un livre, se demandent avec une réelle anxiété « Est-ce que je vais trouver là de la vérité ?» Si on proposait à tous ceux qui ont pour profession de penser, prêtres, pasteurs, philosophes, écrivains, savants, professeurs de toute espèce, le choix à partir de l'instant présent entre deux destinées, ou sombrer immédiatement et définitivement dans l'idiotie, au sens littéral, avec toutes les humiliations qu'un tel effondrement entraîne, et en gardant seulement assez de lucidité pour en éprouver toute l'amertume, ou un développement soudain et prodigieux des facultés intellectuelles qui leur assure une célébrité mondiale immédiate et la gloire après leur mort pendant des millénaires, mais avec cet inconvénient que leur pensée séjournerait toujours un peu en dehors de la vérité. Peut-on croire que beaucoup d'entre eux éprouveraient pour un tel choix même une légère hésitation? L'esprit de vérité est aujourd'hui presque absent et de la religion, et de la science, et de toute la pensée. Les maux atroces au milieu desquels nous nous débattons, sans parvenir même à en éprouver tout le tragique, viennent entièrement de là. Cet esprit de mensonge et d'erreur, de la chute des rois, funeste avant-coureur. dont parlait Racine, n'est plus aujourd'hui le monopole des souverains. Il s'étend à toutes les classes de la population. Il saisit des nations entières et les met dans la frénésie. Le remède est de faire redescendre l'esprit de vérité parmi nous, et d'abord dans la religion et la science, ce qui implique qu'elles se réconcilient. L'esprit de vérité peut résider dans la science à la condition que le mobile du savant soit l'amour de l'objet qui est la matière de son étude. Cet objet, c'est l'univers dans lequel nous vivons. Que peut-on aimer en lui, sinon sa beauté? La vraie définition de la science, c'est qu'elle est l'étude de la beauté du monde. Dès qu'on y pense, c'est évident. La matière, la force aveugle, ne sont pas l'objet de la science. La pensée ne peut les atteindre, elle fuit devant elle. La pensée du savant n'atteint jamais que des relations qui saisissent matière et force dans un réseau invisible, impalpable et inaltérable d'ordre et d'harmonie. Le filet du ciel est vaste, dit Lao Tzu. Ses mailles sont larges. Pourtant, rien ne passe au travers. Comment la pensée humaine aurait-elle pour objet autre chose que de la pensée? C'est là une difficulté tellement connue dans la théorie de la connaissance qu'on renonce à la considérer. On la laisse de côté comme un lieu commun. Mais il y a une réponse. C'est que l'objet de la pensée humaine est lui aussi de la pensée. Le savant a pour fin l'union de son propre esprit avec la sagesse mystérieuse éternellement inscrite dans l'univers. Dès lors, comment y aurait-il opposition ou même séparation entre l'esprit de la science et celui de la religion? L'investigation scientifique n'est qu'une forme de la contemplation religieuse. C'était bien le cas en Grèce. Que s'est-il donc passé depuis? Comment se fait-il que cette science qui, quand l'épée romaine la fit tomber en défaillance, avait l'esprit religieux pour essence, se soit éveillée matérialiste au sortir de sa longue léthargie? Quel événement était survenu dans l'intervalle? Il s'était produit une transformation dans la religion. Il ne s'agit pas de l'avènement du christianisme. Le christianisme originel, tel qu'il se trouve encore présent pour nous dans le Nouveau Testament et surtout dans les Évangiles, était comme la religion antique des mystères, parfaitement apte à être l'inspiration centrale d'une science parfaitement rigoureuse. Mais le christianisme a subi une transformation, probablement liée à son passage au rang de religion romaine officielle. Après cette transformation, la pensée chrétienne, excepté quelques rares mystiques toujours exposés au danger d'être condamnés, n'admit plus d'autre notion de la providence divine que celle d'une providence personnelle. Cette notion se trouve dans l'Évangile, car Dieu y est nommé le Père. Mais la notion d'une providence impersonnelle et en un sens presque analogue à un mécanisme s'y trouve aussi. Devenez les fils de votre Père, celui des cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Lit-on dans Saint Matthieu au chapitre 5, verset 45. Ainsi, c'est l'impartialité aveugle de la matière inerte, c'est cette régularité impitoyable de l'ordre du monde absolument indifférente à la qualité des hommes, et de ce fait si souvent accusée d'injustice, c'est cela qui est proposé comme modèle de perfection à l'âme humaine. C'est une pensée d'une profondeur telle que nous ne sommes pas même aujourd'hui capables de la saisir. Le christianisme contemporain l'a tout à fait perdu. Toutes les paraboles sur la semence répondent à la notion d'une providence impersonnelle. La grâce tombe de chez Dieu dans tous les êtres. Ce qu'elle y devient dépend de ce qu'ils sont. Là où elle pénètre réellement, les fruits qu'elle porte sont l'effet d'un processus analogue à un mécanisme et qui, comme un mécanisme, a lieu dans la durée. La vertu de patience, ou pour traduire plus exactement le mot grec, d'attente immobile, est relative à cette nécessité de la durée. La non-intervention de Dieu dans l'opération de la grâce est exprimée aussi clairement que possible. Le royaume de Dieu, c'est comme si un homme jette du grain dans la terre, puis dort et veille la nuit et le jour, et le grain germe et pousse sans qu'il sache comment. Automatiquement, la terre porte le fruit. D'abord la tige, puis l'épi, puis la plénitude du grain dans l'épi. Lit-on dans Saint Marc, au chapitre 4, verset 26. Tout ce qui concerne la demande évoque aussi quelque chose d'analogue à un mécanisme. Tout désir réel d'un bien pur, à partir d'un certain degré d'intensité, fait descendre le bien correspondant. Si l'effet ne se produit pas, le désir n'est pas réel. Ou il est trop faible, ou le bien désiré est imparfait, ou il est mélangé de mal. Quand les conditions sont remplies, Dieu ne refuse jamais. Comme la germination de la grâce, c'est un processus qui s'accomplit dans la durée. C'est pourquoi le Christ nous prescrit d'être importuns. La comparaison dont il use sur ce point évoque elle aussi un mécanisme. C'est un mécanisme psychologique qui contraint le juge à satisfaire la veuve. Je ferai justice à cette veuve parce qu'elle ne fait que me fatiguer, lit-on dans Luc chapitre 18, verset 5. Et l'homme endormi à ouvrir à son ami. Entre parenthèses, s'il ne se lève pas par amitié pour lui, il se lèvera à cause de son impudence. Lit-on dans Luc, chapitre 11, verset 8. Fermez la parenthèse. Si nous exerçons une espèce de contrainte sur Dieu, il ne peut s'agir que d'un mécanisme institué par Dieu. Les mécanismes surnaturels sont au moins aussi rigoureux que la loi de la chute des corps. Mais les mécanismes naturels sont les conditions de la production des événements comme telle, sans égard à aucune considération de valeur. Et les mécanismes surnaturels sont les conditions de la production du bien pur comme tel. C'est ce qui est confirmé par l'expérience pratique des saints. Ils ont constaté, dit-on, qu'ils pouvaient parfois, à force de désir, faire descendre sur une âme plus de bien qu'elle-même n'en désirait. Cela confirme que le bien descend du ciel sur la terre seulement dans la proportion où certaines conditions sont en fait réalisées sur terre. L'œuvre entière de Saint Jean de la Croix n'est qu'une étude rigoureusement scientifique des mécanismes surnaturels. La philosophie de Platon aussi n'est pas autre chose. Même le jugement dans l'Évangile apparaît comme quelque chose d'impersonnel. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ceci est le jugement. Quiconque fait des choses médiocres est la lumière. Celui qui fait la vérité vient vers la lumière. Lit-on dans Jean, chapitre 3, verset 18. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Lit-on dans Jean, chapitre 5, verset 30. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me refuse et ne reçoit pas mes paroles, il a un juge. La parole que j'ai parlée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dans l'histoire des ouvriers de la onzième heure, il semble y avoir caprice de la part du maître de la vigne. Mais si on fait un peu attention, c'est le contraire. Il ne paie qu'un seul salaire parce qu'il ne possède qu'un seul salaire. Il n'a pas de monnaie. Saint Paul définit le salaire. Je connaîtrai comme je suis connu. Cela ne comporte pas de degré. De même, il n'y a pas de degré dans l'acte qui fait mériter le salaire. On est appelé. On accourt ou on n'accourt pas. Il n'est au pouvoir de personne de devancer l'appel, même d'une seconde. Le moment ne compte pas. Il n'est pas tenu compte non plus de la quantité ni de la qualité du travail dans la vigne. On passe ou non du temps dans l'éternité selon qu'on a consenti ou refusé. Quiconque s'élève soi-même sera abaissé. Quiconque s'abaisse soi-même sera élevé. Cela évoque une balance, comme si la partie terrestre de l'âme était dans un plateau et la partie divine dans l'autre. Un hymne du Vendredi Saint compare aussi la croix à une balance. Ceux-là ont reçu leur récompense. Dieu n'a donc le pouvoir de récompenser que les efforts qui sont sans récompense ici-bas. Les efforts accomplis à vide. Le vide attire la grâce. Les efforts à vide constituent l'opération que le Christ appelle « amasser des trésors dans le ciel ».